VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 13 juillet 2017, en direct de Washington. Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, de nouveaux sites possibles de fosses communes ont été découverts dans la région centrale du Kasaï.
Au Kenya, au moins 6 policiers ont été tués hier et 4 autres blessés dans le centre du pays.
Khartoum a suspendu hier les discussions avec Washington à la suite de la prolongation des sanctions américaines contre le Soudan.
Le président Donald Trump à Paris à partir d'aujourd'hui pour participer à la fête nationale française du 14 juillet.
Au Brésil, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva va faire appel de sa condamnation à près de 10 ans de prison pour corruption devant la justice brésilienne et l'ONU.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, de nouveaux sites possibles de fosses communes, au nombre de 38, ont été découverts dans la région centrale du Kasaï, secouée depuis près de 9 mois par des violences, a déclaré l'ONU mercredi. Au moins 80 fosses communes ont été recensées dans la région, qui a connu une montée de la violence entre les forces de sécurité locales et une milice tribale, les Kamuinan Sapu, depuis septembre. Selon l'Église catholique, plus de 3000 personnes ont perdu la vie dans cette violence.
La France considère le Tchad comme un pays ami et partenaire, a indiqué hier le Quai d'Orsay, au lendemain d'une lettre ouverte de l'opposition tchadienne dénonçant le soutien de l'Occident au président Idriss Déby Itno, qui gouverne le Tchad d'une main de fer depuis 1990. La branche jeunesse du principal parti d'opposition, de l'UNDR, a dénoncé mardi le soutien des Occidentaux et particulièrement de la France au président Déby, réélu pour un 5e mandat en avril 2016, après des élections contestées.
Au moins 6 policiers ont été tués hier et 4 autres blessés dans le centre du Kenya. Cette région est en proie à la sécheresse et à des violences impliquant des éleveurs. Le point avec Solange Nyamulisa.
La police a déclaré que ces policiers ont été tués au cours d'un échange de tirs avec des membres de l'ethnie Pokot dans le comté de Laikipia. Des milliers d'éleveurs frappés par la sécheresse ont pénétré illégalement dans des réserves privées à la recherche de pâturages pour leurs animaux. Armés de lances ou d'armes automatiques, ils ont tué ou blessé ces derniers mois des dizaines de personnes, volé du bétail et incendié des propriétés. Human Rights Watch appelle le gouvernement de Nairobi à s'occuper de la crise dans certaines parties de la vallée du Rift. Il a ajouté que l'insécurité pourrait avoir un sérieux impact sur le vote des personnes déplacées pendant les élections le mois prochain.
Le Soudan a suspendu hier les discussions avec les États-Unis suite à la prolongation par Washington des sanctions imposées à Khartoum. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Omar El-Béchir a décrété la suspension du comité qui négociait depuis plus d'un an avec des responsables américains pour tenter d'obtenir la levée définitive des sanctions. Le président Donald Trump a prolongé jusqu'au 12 octobre la période probatoire. Pour faire lever l'embargo, Khartoum doit mettre fin à son soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, cesser les hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud et coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Plus tôt mercredi, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ibrahim Gandou, a dit regretter la décision américaine qui intervient après de longues négociations entre Washington et Khartoum. Les sanctions contre le Soudan ont été imposées en 1997 pour son soutien présumé aux islamistes, dont le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président de la Russie, Vladimir Poutine, aurait préféré avoir Hillary Clinton à la Maison-Blanche plutôt que son locataire actuel, Donald Trump. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le président américain dans une interview à Pat Robertson, fondateur de la chaîne de télévision Christian Broadcasting Network. Monsieur Trump a expliqué que si Hillary Clinton avait gagné, elle aurait décimé les forces armées américaines et l'énergie aurait coûté beaucoup plus cher. Et d'ajouter, c'est ce que Poutine n'aime pas à mon sujet, parce que j'ai fait le contraire. M. Trump a néanmoins qualifié d'excellente la réunion qu'il a eue la semaine dernière avec M. Poutine en marge du sommet du G20 en Allemagne. « Nous avons besoin de dialoguer avec tout le monde », a dit encore M. Trump, en mettant en exergue le cessez-le-feu qu'ils ont arrangé ensemble en Syrie.
Par ailleurs, le président Trump assure que la Maison-Blanche fonctionne normalement, réfutant ainsi les informations selon lesquelles c'est le chaos à la présidence américaine après que son fils aîné, Donald Trump Jr., a révélé sa rencontre en 2016 avec une avocate russe qui offrait des informations préjudiciables à Hillary Clinton. Selon M. Trump, la Maison-Blanche se concentre sur les dossiers clés et il a ajouté qu'il ne perdait pas son temps à regarder la télévision, bien que les médias disent le contraire. M. Trump s'est félicité de succès contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak, à la frontière sud des États-Unis concernant l'immigration et aussi dans la lutte contre les gangs de criminels en Amérique. Toute cette affaire russe, a-t-il répété, n'est qu'une vaste chasse aux sorcières.
Le président Trump a quitté hier soir Washington pour Paris, où il doit rencontrer aujourd'hui son homologue Emmanuel Macron. M. Trump a été invité à la fête nationale de la France le 14 juillet et aussi au 100e anniversaire de l'entrée des troupes américaines dans la Première Guerre mondiale. M. Trump, qui l'année dernière qualifiait Paris de ville dangereuse à cause du terrorisme, s'entretiendra aussi de la lutte contre ce fléau avec le président Macron. On rappelle également qu'en se retirant de l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump avait dit qu'il avait été élu pour représenter Pittsburgh et non pas Paris.
Peu avant d'accueillir Donald Trump, Emmanuel Macron co-présidera avec la chancelière allemande Angela Merkel, aujourd'hui à Paris, le Conseil des ministres franco-allemands. Une nouvelle occasion d'afficher une détermination commune à jouer un rôle moteur en Europe sur fond de Brexit. M. Macron devrait notamment demander à la chancelière allemande de contribuer au financement de la force anti-djihadiste G5 Sahel, Mauritanie, Tchad, Mali, Niger et Burkina Faso, récemment créée sous l'impulsion de la France, ainsi qu'une participation financière à un fonds d'aide au développement baptisé Alliance pour le Sahel.
Des conseillers militaires américains opèrent au cœur de la ville de Raqqa, dernier bastion du groupe État islamique en Syrie. Et le programme alimentaire mondial a commencé hier à livrer par la route de l'aide aux populations déplacées dans le nord de la Syrie. Le point avec Morgane Guiriec.
Le colonel Ryan Dillon, porte-parole de l'armée américaine, assure que ses membres des forces spéciales, pour la plupart, sont en mission d'accompagnement des forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes. Il précise que les soldats américains ne participent pas directement au combat, mais sont là pour former et soutenir les FDS, qui ont lancé en novembre une offensive pour déloger les djihadistes de Raqqa, dernier grand fief urbain du groupe État islamique en Syrie. Pour la première fois en 3 ans, le Programme alimentaire mondial a annoncé hier pouvoir livrer maintenant par voie terrestre de l'aide dans la province de Raqqa. Le PAM livre de la nourriture à quelques 200 000 personnes déplacées dans 8 secteurs difficiles d'accès dans le nord de la Syrie.
Au Brésil, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva va faire appel de sa condamnation à près de 10 ans de prison pour corruption devant la justice brésilienne et aussi devant l'ONU, a annoncé mercredi l'un de ses avocats. « Nous faisons appel et prouverons son innocence devant toutes les cours impartiales, y compris aux Nations Unies », a déclaré dans un message à l'AFP l'un de ses avocats peu après la condamnation à 9 ans et 6 mois de prison de l'icône de la gauche brésilienne pour corruption et blanchiment d'argent.
La Cour suprême du Venezuela n'a finalement pas tranché mercredi le sort de la procureure dissidente Luisa Ortega, devenue le visage de la contestation au sein même du camp du président Nicolas Maduro, dans un pays chaque jour un peu plus en crise. La plus haute juridiction du Venezuela s'était initialement donné 5 jours pour décider ou non si elle allait juger cette femme de 59 ans pour faute grave, ce qui risquait de donner du grain à moudre à l'opposition qui manifeste depuis plus de 3 mois. Le camp du président Nicolas Maduro est actuellement en campagne électorale en vue de la désignation le 30 juillet des membres de l'Assemblée constituante. Celle-ci aura pour mission de refonder la Constitution. Ce projet est fermement rejeté par les anti-chavistes qui y voient une manière de contourner l'Assemblée nationale élue, dominée depuis 2016 par l'opposition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho.
L'ananas guinéen sera bientôt sur les marchés européens grâce au gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla qui a signé avec l'importateur Vibi International. 100 tonnes sont attendues en France en octobre prochain et en janvier 2018. La compagnie aérienne Air Zimbabwe, qui affiche une dette de plus de 300 millions de dollars, a licencié 200 salariés, près de la moitié de ses effectifs. Le but est de réduire les coûts et tenter d'éviter la faillite dans un pays où l'économie est en berne depuis les années 2000. En Côte d'Ivoire, deux marques Solibra et Brassivoire se disputent le marché de la bière à coups de panneaux publicitaires. Le marché de la bière est en forte croissance, sa taille a doublé depuis 2017. Brassivoire compte investir 150 millions d'euros pour produire 1,6 million d'hectolitres de bière par an, contre 2 millions pour Solibra. Le marché ivoirien est estimé à 2,8 millions d'hectolitres par an. Dans un rapport publié par un cabinet américain, la Chine est devenue en deux décennies le partenaire économique le plus important en Afrique. Le commerce sino-africain a été multiplié par 20 et les investisseurs chinois sont de plus en plus nombreux.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Al Ahly Tripoli ne veut pas jouer son match retour des quarts en Tunisie.
Tout à fait Idrissa, les Libyens d'Al Ahly Tripoli affronteront le club tunisien de l'Étoile Sportive du Sahel pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. La formation libyenne a demandé à la Confédération africaine de football de lui permettre de disputer le match retour en Égypte du fait des troubles chez elle. Les clubs libyens avaient pour habitude de disputer leurs matchs continentaux en Tunisie à cause de l'instabilité sociopolitique qui règne dans leur pays.
Pogba et Chedjou blessés.
Oui, mauvaise nouvelle, alors qu'il a rejoint seulement cet été le club d'Istanbul, Başakşehir, pour 3 ans, le défenseur camerounais Aurélien Chedjou doit déjà observer une période d'absence de 3 mois. La cause, une blessure contractée au pied hier à l'entraînement. Blessé à la cheville droite samedi contre l'AC Ajaccio, Florentin Pogba lui avait quitté le stade avec des béquilles. Sa durée d'indisponibilité est estimée à au moins 3 mois. Mauvaise nouvelle pour le Guinéen qui devrait également manquer des matchs importants de sa sélection dans les éliminatoires du Mondial 2018.
Les grands championnats européens financièrement au top.
Effectivement, les recettes cumulées de la Bundesliga allemande, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Première Ligue anglaise et la Serie A italienne ont plus que doublé. 24,6 milliards d'euros lors de la décennie écoulée selon un récent rapport. Les clubs de Première Ligue sont les mieux lotis avec 4,9 milliards d'euros de recettes sur la saison 2015-2016 et le nouvel accord sur les droits de retransmission télé qui a démarré en 2016-2017 va maintenir cette domination.
L'heure de Christophe Froome va-t-elle sonner au Tour de France?
C'est possible, Idrissa. Le Britannique a gardé le maillot jaune de leader au classement. Christopher Froome, excellent grimpeur, pourrait profiter du début des étapes de montagne aujourd'hui pour accentuer son avance sur la concurrence. Le peloton va disputer 214,5 km, dont une bonne partie à travers les Pyrénées, entre Pau et Peyragudes.
NBA pour terminer, le nombre de temps morts par match a diminué.
Oui, la Ligue nord-américaine de basketball NBA a décidé hier de réduire de 18 à 14 le nombre de temps morts par match. L'objectif, c'est d'accélérer le déroulement des rencontres. La Ligue a également prévu que dans les 3 dernières minutes, chaque équipe ne pourra plus bénéficier que de 2 temps morts contre 3 précédemment. La durée de chaque temps mort est désormais de 75 secondes, alors que les équipes disposaient au choix jusque-là de temps mort complet 90 secondes et de temps mort dit de 20 secondes qui durait en réalité 60 secondes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, l'émissaire spécial des Nations Unies, l'ancien président burkinabé Michel Kafando, poursuit ses consultations. Il a rencontré hier différents acteurs, c'était plutôt mardi, différents acteurs politiques et des représentants de la société civile de Bujumbura. Notre correspondant Christophe Kurunziza fait le point.
Depuis ce lundi, l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi, l'ancien président burkinabé Michel Kafando, rencontre les différents acteurs politiques et de la société civile, mais en secret. Il est actuellement difficile de connaître ceux qu'il a déjà rencontrés. Toujours est-il que la question du dialogue inter-burundais, qui est aujourd'hui au point mort, reste à l'agenda. Mais pour Gilbert Bekonjangwa, porte-parole de 13 organisations de la société civile proches du pouvoir avec lesquelles Michel Kafando s'est entretenu mardi, il est grand temps de rapatrier le dialogue extérieur, car la paix, selon Djangwa, est totale.
Nous lui avons carrément dit que la révision de la constitution de la République des pays membres de l'ONU, que ça en rêve de la souveraineté nationale. Nous avons aussi parlé sur le dialogue inter-burundais, que ces conclusions manifestent aussi la volonté populaire, que le dialogue externe soit rapatrié à Bujumbura et que le dialogue continue à l'intérieur du pays. S'il y a des personnes parmi les acteurs politiques ou les politiciens qui vivent à l'étranger, qui veulent rentrer, puissent rentrer rapidement, sans peur, parce qu'ils ne vont pas rester à l'extérieur pour l'éternité. Qu'au Burundi, il y a la paix, il y a la sécurité, et que les Burundais vivent en harmonie et en symbiose.
L'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi continue ses rencontres avec les Burundais de l'intérieur. Léonce Ngendakumana affirme que Michel Kafando est assez outillé pour mener à bien ses consultations, mais pour lui, tout peut être changé, sauf la constitution et l'accord de paix de réconciliation d'Arusha qui consacre deux mandats pour tout dirigeant burundais.
Mokapa ou l'ONU ou les autres ont parlé de la constitution alors que c'est une question de souveraineté. Nous avons dit oui pour l'indépendance et la souveraineté, nous en sommes conscients aussi, mais la souveraineté ne signifie pas avoir les outils d'infantiliser ton peuple, les outils d'opprimer les autres. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, on utilise l'armée, on utilise la police, on utilise l'appareil administratif, on utilise l'appareil judiciaire pour réprimer ceux qui sont contre la violation ou le rejet de l'accord d'entrée de la Constitution. On a démontré qu'on ne peut pas brandir cette carte. Ça ne colle pas, ça ne colle pas.
La crise politique qui a débuté en avril 2015 a entraîné des violences. Les Nations Unies et les organisations internationales estiment qu'entre 500 et 2000 personnes ont été tuées, tandis que plus de 400 000 Burundais sont réfugiés et plus de 200 000 sont des déplacés internes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Tchad, cela fait deux semaines qu'un parti de l'opposition, le Parti Socialiste Sans Frontières, a déposé une plainte accusant le président Idriss Déby Itno de trahison. Ce parti s'appuie sur une interview accordée par le chef de l'État tchadien à des médias français et dans laquelle il accuse la France d'avoir modifié la constitution pour le maintenir au pouvoir. Quel est le mérite de cette plainte? Timothée Donangmaï a recueilli l'avis du juriste et analyste tchadien Eugène Gartebay Le Yota.
Par rapport à la question de la haute trahison définie dans la Constitution aux dispositions des articles 173 et suivants, constitue un acte de haute trahison tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance, à l'intégrité du territoire. au troisième alinéa de la même disposition de l'article 111 sont assimilés aux actes de haute trahison les violations graves et caractérisées des droits de l'homme, les détournements de fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogue et l'introduction de déchets toxiques ou dangereux en vue de transit ou dépôt stockage sur le territoire national.
Le Parti socialiste sans frontières cite à l'appui de sa plainte l'aveu du président Idriss Déby Itno lui-même dans une interview aux médias internationaux selon lequel la France a changé la constitution tchadienne malgré lui. Alors, est-ce que c'est une base pour un procès en trahison?
On ne peut pas instruire un procès sur les déclarations. Si on revient en droit sur la compétence ou sur la définition de haute trahison telle que définie par la Constitution, on ne peut pas s'attarder à dire que le président de la République ayant fait les déclarations sur les chaînes internationales pour dire qu'on l'a modifié. Qui a charge de rapporter la preuve? Et qui doit rapporter la preuve? Le président de la République? La seconde articulation, c'est la procédure de la saisine. Est-ce que le Parti socialiste sans frontières fait partie d'un groupe parlementaire à l'Assemblée qui puisse mettre en exergue cette accusation, puisqu'il faut deux tiers des membres de l'Assemblée. La procédure est réglée constitutionnellement.
Et ça dit donc la plainte du Parti socialiste sans frontières est sans intérêt dans le contexte tchadien de l'heure?
Actuellement, tout semble dire en droit que c'est il n'a pas une issue favorable à cette requête. La requête doit être déclarée irrecevable. Par contre, en politique, l'analyse peut se situer autrement, en ce sens que depuis l'institutionnalisation ou la création de la haute cour de justice, il n'a jamais eu, ou bien à mon sens, à moins que je ne sois pas informé, de saisie. Et donc, la haute cour de justice constitue un gouffre financier décrié et qui peut-être que cette occasion pourrait permettre aux gens qui constituent ou aux personnalités qui constituent la haute cour de justice de se réunir et de se dire, ne serait-ce que pour se prononcer sur l'irrécevabilité.
C'était le juriste et analyste tchadien Eugène Ngartebaye, le Yota, joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali, la ville de Gao devient incontournable dans la gestion de la crise que traverse le pays. La ville abrite le gouvernorat de la région de Kidal et certains déplacés de cette région. L'insécurité reste notable au quotidien. Pour rassurer les populations, Gao s'organise pour faire face à cette situation. Kassim Traoré fait le point.
Une fois à Gao, de l'aéroport au centre-ville, on est frappé par les dispositifs sécuritaires devant certains bâtiments de l'armement, des Barkhane ou des officiers de l'armée malienne. Loin de cette sécurité de haut niveau, on est en pleine ville. Fleman Sango, communicateur traditionnel, est venu faire des achats au marché de Gao.
C'est la peur au ventre. Nous remarquons qu'il y a des bandits dispersés dans la nature qui font des attaques partout, dans les carrés, dans les villages, sur les routes. Ils font braquer les gens, ils enlèvent les motos, ils enlèvent les véhicules, ils prennent tout ce que tu possèdes. On indexe certains groupes armés, on indexe d'autre part des bandits armés seulement qui n'appartiennent à aucun groupe.
Dans le quartier Château, non loin de la rôtisserie Moua, avant d'arriver au bout de la rue, se trouve un bâtiment. Le drapeau malien est sur le toit de l'édifice. On est dans le gouvernorat de Kidal à Gao. Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, nous accueille.
Alors c'est vraiment pas facile. Nous utilisons différents canaux de la société civile. Nous parlons avec les groupes armés des deux camps, que ce soit de la plateforme ou de la SEMA. Nous menons des actions pour ce qui concerne la protection des populations civiles, l'appui aux populations en difficulté, l'accueil des déplacés, la scolarisation des enfants, donc la marche des écoles, la remise en état des structures de santé.
Notre passage coïncide avec le combat entre SEMA et la plateforme dans la ville d'Anefif. Même si le gouverneur garde espoir, il a condamné ces attaques des frères ennemis de Kidal.
Il y a des deux côtés des gens qui ne sont pas très sensibles au sort des populations civiles et qui veulent absolument en découdre au détriment de la paix. Je pense que c'est condamnable, quel que soit le côté d'où ça vient, mais ça ne doit pas nous décourager.
Alaï Ag est ressortissant de Kidal. Cordonnier, il travaille sous un petit hangar et gagne bien sa vie. Mais toujours, il pense à Kidal.
Ce qu'on voit en réalité, c'est le problème des ethnies. C'est ça qui se passe à Kidal aujourd'hui.
Kidal Ag, c'est aussi des déplacés, surtout les femmes et les enfants. La porte-parole des femmes de Kidal lance un appel aux différents combattants.
Je m'appelle Dari Awolet Moussa de Kidal, que je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les jeunesses de songer la vie des humains, ce n'est pas la vie des poulets. Et un pays aussi, s'il n'a pas des hommes, il n'a rien.
A signaler que le combat à Anefif a été très violent entre la SEMA et la plateforme. Anefif est actuellement contrôlé par la SEMA. Le bilan provisoire est de plusieurs morts de part et d'autre, des blessés, mais aussi des armes détruites. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Au Togo, campagne de sensibilisation sur la fièvre hémorragique de Lassa dans le nord du pays. Des échos de cette campagne avec notre correspondante Kay Lawson.
Samson et son compère Yempab se sont dépêchés dans le quartier Bumonga de Dapaon, ville située à 620 km au nord de Lomé. Ils sont tous deux des agents de santé communautaire ASC. Pour cette sortie, ils ont pour mission de sensibiliser sur la fièvre Lassa. Des ateliers d'artisans aux gargotes en passant par les tchakpalodromes, en français comme en langue locale, le message est le même.
C'est une maladie virale et hémorragique.
C'est tout comme Ebola.
Là, la différence d'Ebola, ça, c'est un début. C'est progressivement que ça devient comme Ebola. Sinon, quand ça commence, ça vous commence comme ça, vous avez la fièvre, vous avez les maux de tête, comme si c'est pas lui, fatigue générale. Et progressivement, les courbatures, si ça fait quelque temps, vous n'êtes pas parti à l'hôpital. Si vous prenez du paracétamol ou un calmant, vous prenez ça, ça, la fièvre ne diminue pas.
Dans des localités où le taux de fréquentation des structures sanitaires est bas, les agents de santé communautaire constituent des relais d'information. L'agent de santé communautaire n'est pas un professionnel de la santé, tient à souligner l'ASC Samson Djouti.
Chez nous, on ne fait pas un traitement de palu. S'il y a des produits qu'on a à notre niveau, on peut les donner pour qu'ils en prennent. Mais on prend soin de dire à la personne d'aller vers un centre de santé. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Nous sommes des spécialistes de la vulgarisation des nouvelles. Donc, on est là pour la prévention. S'il y a un cas, on lui donne ce qu'on a. Si on a de l'albendazole pour les vers, si on a du Quatem, on donne à la personne pour le palu. On peut lui donner ça pour que ça se calme. Mais dorénavant, on lui dit, allez-y voir un docteur. Pour plus de précautions, on ne veut pas perdre la personne.
Le travail que font les ASC est bien apprécié par la population, comme le confirment ces témoignages.
Oui, ça nous aide vraiment, ça nous aide beaucoup. Parce qu'entre-temps, ce n'était pas comme ça, vous avez vu. La ville était un peu plus sale que maintenant. Les gens ne comprenaient rien du tout. Quelqu'un est malade, on tardait avec la personne et que cela amenait beaucoup de morts. Maintenant qu'ils sont là, même c'est un peu difficile que dans le quartier, qu'il y ait des personnes qui meurent maintenant facilement comme ça. Quand il y a des choses, même je vois qu'eux-mêmes sont là, et chaque fois ils sont là à sensibiliser sur beaucoup de maladies. Ce n'est pas juste cette fièvre-là, ça là. Il y a eu beaucoup de maladies comme les VIH, SIDA, tout le paludisme, les méningites, tout ça là, ils en ont fait.
Les ASC nous facilitent la vie. Comme ils sont dans la communauté, nous nous référons à eux au moindre problème de santé. En cas de fièvre de nos enfants, ils nous donnent des produits pour faire baisser la température avant que nous ne nous rendions à l'hôpital. Grâce à eux, nous avons abandonné certaines pratiques qui nous mettaient en danger, comme la défécation dans la nature. Ils nous aident vraiment. Une sensibilisation finie au tchakpalodrome, Samson et Yempab enfourchent leur moto vers une autre destination pour la même mission, sensibiliser sur la fièvre Lassa. Kailosson, Dapaon, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement. Comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Ouad? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.